l'ivresse des échanges.
Alcoolisme.
Groupe de parole.
L'expérience.
Espérance.
L'ivresse des échanges.
Bonjour, on va saluer les auditeurs. Et je suis très content d'animer cette 20e émission de l'ivresse des échanges, dont le sujet est toujours les addictions multiples à l'alcool et aux autres produits, et qui aussi parle des groupes de parole. Malheureusement, on n'a pas été très présent sur l'antenne tous ces temps-ci, on n'a pas enregistré depuis le début de l'année, mais on a eu notre pilier Didier là, qui a eu des problèmes de santé, on n'avait pas notre avant-centre, donc on était obligé d'annuler pas mal de matchs. Donc on s'excuse auprès
des... C'était l'infirmerie.
Voilà, c'est ça. C'est la soignée. Et donc on s'excuse auprès des auditeurs. Et on est très content de... On est toujours là. Hein, et on est très content de continuer cette émission.
Et alors, en pleine forme.
Ouais, en pleine forme. Et les copains sont là et ils pourront se présenter tout à l'heure. On remercie toujours forcément Studio Zef qui nous accueille toujours. Didier, Studio Zef
91.10.
Oh, il est fort. Très super. Lucie à la technique, merci. Toujours là.
Toujours.
Merci. Lucie qui fait partie de l'émission, hein, on rappelle toujours à chaque fois, qui intervient quand elle veut. Alors, on va dédicacer l'émission ce soir. Alors, on a dit, un copain qui est dans la merde en ce moment, Aslem, Vanessa, Alex, Hervé, Fabien, tu voulais dédicacer aussi toi.
Oui, déjà, bonjour. Mais salut à toi Olivier, salut Didier, salut Julien, salut... Je voulais dédicacer l'émission à Hervé, particulièrement,
ouais.
Qui est en soins actuellement, qui sort de soins et qui est en convalescence. Et c'est très compliqué dans les débuts et je suis de tout cœur avec toi Hervé. Tu m'appelles quand tu veux, on est là. Et une pensée aussi pour Tony Coca, dit Franklin ou B-Boy dans la rue.
Ouais.
Et à tous ceux qui l'aimaient bien, et bon courage à tous.
Ok, merci Fabien. Lucie, l'émission d'aujourd'hui, à ton avis, elle passe fin juin ou au programme pour la rentrée?
On la sort le 19 juin jusqu'au 24 juillet, je pense.
Ah ben c'est super, merci beaucoup. Donc on va faire cette émission-là.
On peut partir en vacances.
Voilà, on va souhaiter une bonne fin d'année scolaire aux auditeurs. On aura peut-être le temps de leur rappeler en fin d'émission. Alors, je vais laisser les participants et les participantes, on va commencer par la participante, se présenter par eux-mêmes, c'est quand même plus facile.
Bonjour à tous, ouais. Moi je m'appelle Gaëlle.
Oui, bienvenue.
Merci beaucoup pour cette première fois.
Julien, parmi nous, tu peux me rappeler ton âge ?
33 ans.
33 ans. Donc on va de 33 à 54. On prend hommes et femmes. Tout le monde est comme auditeur. Et je voulais dire un petit merci, en fait, on pourrait commencer comme ça, pour tous les retours positifs que j'ai eus envers notre émission. Pour tous ceux qui nous écoutent et puis qui me le font savoir comme quoi ça vous fait du bien. Donc je suis touché de le savoir et je vous envoie plein de bonnes vibrations, des bisous doux de Blois.
Ok, donc c'est Fabien qui vient de parler.
Fabien Beuffa pour les intimes.
Voilà, un pilier d'émission.
Qui vient de me présenter, mais voilà, Julien, voilà, ça fait un moment que j'étais pas revenu dans le studio. Et c'est avec plaisir que je le fais, et voilà, c'est tout, hein. Sinon ça va plutôt pas mal. Voilà.
Julien qui a animé déjà comme un grand tout seul une émission sur la polyaddiction il y a quelques mois. Très bonne émission qui est en podcast, hein. Très intéressant.
Toujours, comme toutes les émissions. Et moi c'est Didier, alors il paraît que je suis un pilier, comme il a dit Olivier. Pas un pilier de comptoir, attention.
Donc Lucie, on a dit. Et
moi, tu es Didier de la Roxette.
Oui, aussi.
L'émission aussi, sur Studio Zef.
Ouais.
On t'a reconnu.
Et donc, Olivier, pour vous servir à l'animation. Alors, le thème d'aujourd'hui, les addicts, les personnes addictes dépendantes, qui sont un peu un pléonasme d'ailleurs, les personnes addictes dépendantes qui vont bien. Parce qu'il y en a. Et on va essayer de parler de ça, c'est-à-dire que on peut avoir été addict dans sa vie et aller bien quand même. Sachant, Hein, on a dit que la souffrance et la mort, on va en reparler tout à l'heure, est jamais très loin quand même. Alors les principes de l'émission, Didier.
Oui.
On va voir si t'es toujours, si t'as rien oublié.
Ah ben j'ai rien oublié, j'ai révisé pendant. Donc les principes de l'émission, ça s'adresse bien sûr aux personnes qui rencontrent des problèmes de consommation, hein, qui consomment des substances psychotropes, hein, et à leur entourage aussi.
Oui, parce que c'est l'alcool, au départ, oui. Cette émission, c'est l'alcool, mais c'est la polyaddiction, en
touche,
fait. Hein,
on touche aussi obligatoirement à côté d'autres
c'est
d'autres
pas fermé, consommations. Ouais. C'est pas fermé aux autres consommations, oui.
Donc cette émission, elle est surtout pour donner l'espoir,
c'est ça,
hein,
ouais.
Dire qu'il est possible de guérir, hein, de se soigner, surtout avant tout, et de guérir. Et le principe, c'est de donner des pistes, hein, de parcours de soins, et de donner des pistes par des témoignages qu'on peut apporter. Et que tous les membres et tous ceux qui participent à cette émission peuvent amener comme témoignage pour démontrer qu'on peut s'en sortir à un moment donné. Donc pas, on n'est pas là pour faire des jugements, bien
c'est
entendu,
ça.
On ne donne pas leçon, hein, ni on est sur des témoignages personnels. On est là aussi pour promouvoir les groupes de parole, notamment notre groupe de parole déjà, mais aussi les groupes de parole, nos pratiques, hein, dans nos groupes, comment les gens se sentent dans les groupes de parole.
Absolument. Oui.
On est là pour témoigner en fait qu'on peut vivre très bien sans l'alcool et toute autre drogue. Hein. Et on se situe, notre action, elle se situe dans le collectif Entre deux eaux. Hein.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi Entre deux eaux? Parce que c'est entre Loire et Cher.
Entre la Loire et le Cher.
Hein, avec d'autres groupes de parole qui sont dans la vallée du Cher.
C'est ça.
Et le groupe de parole qu'on a, nous, à la Maison des Provinces, tous les mardis à Blois, hein, qui est rattaché à l'hôpital de Blois avec...
au service addicto, 9e.
Au service addicto, 9e.
Oui, sous la référence de l'addictologue, pardon.
Romain Coste.
Romain Coste, hein,
voilà.
Absolument.
Voilà.
Romain Coste qui travaille donc sur la notion de...
Patient expert,
hein, c'est ça, oui. Alors, patient expert, qu'est-ce que vous pouvez dire un mot sur les patients experts?
En gros, patient expert, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience avec les drogues ou autres produits ou autres consommations pendant X années et puis qui s'en remet et qui peut donner des pistes et aider d'autres personnes qui sont justement dans ce problème.
Ouais, il y a ça, et puis il y a le fait que le patient est acteur de sa guérison en premier lieu. Il est acteur de sa guérison. Et l'addictologue avec lequel on bosse, il a fait des sujets de thèse sur le sujet, hein, et lui c'est son action à lui, c'est-à-dire d'inclure le patient dans son parcours de soins, parce que l'expert c'est pas le docteur, c'est le malade. C'est le malade, c'est lui qui sait que ça fait mal, c'est lui qui souffre, c'est lui qui connaît les effets délétères de la maladie, qui connaît les effets secondaires des médicaments, etc. Et donc, il n'y a pas que dans l'alcool, dans les cancers, dans les machins, etc. De toute façon, c'est le patient qui est...
C'est le patient qui vit la maladie.
Ah, ouais, c'est pour ça qu'au-delà de l'alcool, il y a des groupes de parole qui se développent pour tout un tas de pathologies et tout ça, parce que le corps médical s'aperçoit que ça a une utilité et que les patients doivent être associés à leur soins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de médecins, qu'il ne faut absolument pas. Hein, je ne dis pas ça. Hein, mais,
Et c'est vrai que la parole libère.
Oui, absolument. C'est important, tu fais bien d'appuyer sur le sujet. C'est une époque où il y a tellement de critiques, en particulier envers le milieu médical. Il y a plein de gens qui critiquent les toubibs, etc., en disant, voilà, ceci, il a pas pris assez de temps pour moi, il prescrit trop de médicaments, etc. Là, on a des médecins qui s'interrogent sur leur pratique et qui, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas inventer la maladie puisqu'ils ne l'ont pas. Alors ils ont le savoir médical, ils ont le savoir, ils ont le pouvoir des médicaments, etc. Mais et la posologie qui est vraiment importante justement pour éviter l'automédication. Mais à côté de ça, ils reconnaissent bien que c'est quand même le malade qui est au centre du processus. Et c'est une différence ouais. importante.
Ce qui se passe surtout en ce moment, c'est le saccage un peu des soins en France. Hein.
C'est clair.
J'entendais tout à l'heure dans une radio nationale que la situation des urgences en France crée plus de mortalité. Là, ça y est, ils le sortent. Hein. Il y a plus de taux de mortalité depuis plusieurs années à cause de la situation dans les hôpitaux, notamment aux urgences, quoi. Voilà.
De l'encombrement ?
Ben, l'encombrement, le manque de personnel, surtout, aussi. Le manque d'accueil pour l'accueil et les soins derrière et tout. Quoi. Voilà.
Ouais, et donc, quand on bosse avec un médecin qui travaille sur les patients experts, c'est quand même plus humain comme approche, quoi.
Bien sûr.
On sent qu'on est respecté. On n'est pas seulement un numéro et un portefeuille.
Puis ça peut aussi faire le lien, comme le disait le docteur Coss, ça permet de faire le lien avec des fois le patient qui lui est dans le malaise à l'instant T et le médecin qui lui n'est pas forcément compris, ou voilà, ça fait le lien entre le médecin et le patient, voilà.
En tout cas, ça fait qu'on va bien.
Ouais, yes. Tu fais bien de le rappeler, c'est le sujet de l'émission.
Alors,
ce soir.
Tu disais tout à l'heure, on va bien. Alors, on peut aller bien pendant pas mal de temps, mais ça peut être aussi des périodes, des passages. Hein. Il peut y avoir aussi des passages moins bien, parce que faut pas oublier que c'est une maladie et qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Mais quand on n'est pas dedans, je veux dire, on va bien. On sent la différence.
Ouais, moi j'aime bien le dire comme ça, c'est que le côté obscur que j'ai vécu à travers ces addictions-là, je ne les souhaite pas à mon pire ennemi. Par contre, le bonheur retrouvé, ça je le souhaite à tout le monde, et de ne jamais désespérer. Je dis ça comme ça, parce que c'est l'opposé, comme le cercle vicieux. On va tout le temps parler du cercle vicieux. Et j'ai trouvé en moi, quoi, le cercle vertueux. On n'entend jamais assez ce mot-là. Pourquoi il n'y aurait pas un cercle vertueux? Et là, bien l'entraide, la solidarité, ça apporte autant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Parce que moi-même, je ne serais jamais sorti de l'alcool tout seul, évidemment. Et c'est en parlant avec... autour de moi, vous, entre autres aussi, pas mal. Ouais. Et du coup, maintenant, je fonce pas tête baissée. Je vais pas me remplir de je ne sais quoi. Ce qui me rend un peu heureux, c'est de pouvoir aider quelqu'un d'autre à découvrir ça, et s'il le souhaite, parce que déjà faut avoir envie. Mais quand on souffre, il faut s'entraider, c'est pas possible de rester comme ça, et ça marche, ça a marché sur moi, je suis vraiment très content et reconnaissant.
Ouais, c'est clair, ton témoignage est vraiment très important, et parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans la présentation de l'émission, aller bien en sortant d'une addiction, oui, c'est possible, et on est là pour convaincre les gens de ça, mais... la mort, on disait, la souffrance et la mort sont pas loin. Hein. Notre actualité actuellement, c'est ça. Hein. On a un jeune qui est mort de 21 ans, qui est mort il y a un peu plus d'un mois. Là. Il est mort d'un coma éthylique. Hein. Bref, drogue et alcool. Moi, j'ai paumé un ami une semaine avant, peut-être, que j'avais pas vu depuis 3 ans. Il est mort de l'alcool aussi, coma éthylique. Hein. On a des amis qui sont en sevrage en ce moment, ils ont vraiment beaucoup de mal, ils sont dans la souffrance. Des amis qui sont en rechute, on n'arrête pas de le répéter à chaque émission, c'est l'alcool, c'est 41 000 morts par an en France. 41 000 morts, j'ai refait le calcul tout à l'heure parce que je n'arrive pas, mais c'est 112 morts par jour. À chaque fois, tu peux prendre la calculette et dis toujours la même chose.
Et puis ce jeune qui a fait un coma éthylique, je le salue, enfin, paix à son âme, j'ai une pensée pour lui, puis je salue ses parents, son père notamment, que je connais pas sa mère, juste son père, on est avec toi, on pense à toi, même si t'es pas tout seul, et ça va passer, puis enfin, le temps fera son affaire, et on t'embrasse.
On t'embrasse, ouais.
Eh oui. Et ça, donc, courage. Là, on va revenir de toute façon sur tout ça, hein, sur le boulot qu'on fait en groupe de parole à la Maison des Provinces. C'est un groupe qui se réunit toutes les semaines. Hein. Les gens ont vraiment besoin de ça. C'est un noyau d'une quinzaine de personnes. Je dis toujours, c'est des montagnes russes. Hein. Il y en a qui montent, le moral remonte, et puis ils sont dans l'abstinence. Et puis il y en a qui descendent, les montagnes russes, ça descend, c'est la rechute, etc. Mais c'est un accueil régulier de nouvelles personnes. C'est pas toujours confortable entre l'accueil des nouveaux, le fait de ne pas exclure d'autres qui sont en rechute, etc. Bon, on donnera quelques adresses et quelques numéros d'appel utiles en fin d'émission, comme d'habitude. On va faire un rappel vite fait du parcours de soins. Vous m'accompagnez là-dessus. Hein. On répète toujours à chaque émission que un parcours de soins contre l'alcool ou contre les drogues, c'est la révélation de la maladie. C'est une maladie, c'est pas une faiblesse. Hein, c'est pas un manque de volonté, hein, les addictions. C'est une maladie. Donc faut que ça soit pour soi et pour l'entourage, ce soit une révélation. Vous êtes malade, vous allez consulter un docteur. Là, c'est un addictologue. Le médecin addictologue, il étudie la situation avec vous, il vous écoute, et dans un premier temps, déjà, il va éventuellement prescrire des médicaments. Ce qu'on dit toujours, c'est un confort, hein, les médicaments, c'est pour...
C'est une béquille.
C'est une béquille, c'est pour aider, hein, c'est pas pour... c'est un confort, parce que ça aide vraiment. Et il en existe. Des médicaments contre l'alcool, contre les drogues, il en existe. Ensuite, le docteur, il va éventuellement, l'addictologue va éventuellement vous orienter vers un parcours dans une cure, un centre spécialisé, où il va vous faire vous soigner chez vous, ce qu'on appelle en ambulatoire, une cure ambulatoire. Et une fois que vous aurez fait cette cure, chez vous ou en centre de soins spécialisé, il faut absolument participer au fameux groupe de parole. On est là à chaque émission pour le dire, hein. On ne sort pas d'une cure et puis on repart dans la vie normale. On retombe très très vite. On risque très très vite de retomber dans les affres.
Parce que c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas bien compte, mais le plus dur n'est pas forcément de se soigner des fois. C'est surtout de tenir une fois qu'on a fait le parcours de soins qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Mais de tenir, c'est-à-dire au quotidien, dans la vie qu'on avait avant et qu'on reprend tout doucement.
Bien sûr, en cure, on est dans un cocon. Hein.
Exact.
On est dans un cocon, on est bien, on est avec des gens qui travaillent sur le même sujet, on est protégé. Et puis, on sort et on retombe. On retombe aussitôt dans son logement, on retombe dans ses emmerdements, on retombe dans les factures, on retombe dans les
dans la vie, quoi.
La vie, les relations de famille et tout,
c'est
etc.
Ça.
Et ça a vite fait hein, de repartir. Alors, le groupe de parole, il est là, c'est 10, 15 personnes. Il y en a toujours un qui est à peu près dans la même situation. On s'étaye, on s'épaule. Il y a une exemplarité, quelque part. Il y a un esprit de corps. Et ça fait partie du parcours de soins. Alors, ça, si pour les gens qui rencontrent des problèmes d'addiction, il faut qu'ils aient notion de ça. C'est-à-dire que s'ils ont activé un de ces trucs du parcours de soins, la consultation, la cure ou le groupe de parole, etc. Déjà, ils ont un pied dans le parcours de soins. Ils ont un pied dans l'espoir. Ils peuvent s'en sortir. Après, éventuellement, ils pourront aller chercher les causes de l'addiction. C'est-à-dire, on peut soigner déjà l'addiction. C'est déjà important. Se sevrer et arrêter le produit. Bon, une fois qu'on y est arrivé, c'est déjà important. On peut en rester là. Mais après, on peut aller consulter des psys. Ça existe. Hein. Donc, il y a le CMP. Le CMP, c'est gratuit.
Ado comme adulte.
Bon, c'est long, hein, parce qu'ils sont suivis.
Très long, ouais. C'est, ouais.
Mais il y a des infirmiers ou infirmiers psy qui vont pouvoir vous prendre en charge.
Psychiatres, etc.
Absolument.
Psychologues.
Et à l'hôpital de Blois, au 9e, hein, il y a une consultation. Il y a une psychologue, Anne, actuellement, qui est vraiment très, très sympa, qui vient d'arriver il y a quelques mois, là, qui est vraiment très, très sympa. Et on vous donnera le numéro du service tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à appeler. Il faut y aller. Il faut consulter soit l'addictologue, soit le service psy. Donc voilà. Alors, on a parlé de notre actualité, la mort, la souffrance qui est là, mais on est là pour parler de du fait d'aller bien sans addiction. Alors là, vous allez bien ? C'est ça la question que je voulais poser. Vous connaissez des personnes qui vont bien, qui ne boivent pas
ou
qui consomment pas ?
Tout à fait.
Moi, je me sens mieux que jamais. J'aimerais bien partager ça.
Moi aussi, je me sens bien mieux depuis que j'ai traversé tout ce que j'avais à traverser. Et je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, Olivier, sur le patient expert ou l'expertise que le patient peut avoir à travers son histoire. En effet, c'est bien lui qui peut savoir si ce qui dysfonctionne est d'avoir en face une équipe médicale qui considère ça au sein d'un patient, pas avec une expertise théorique, et bien du tout, on se sent tout de suite plus accueilli. Et c'est pour ça que, pour moi, l'importance des groupes de parole, c'est retrouver cette considération-là entre des personnes qui font leur traversée, mais avec qui ça peut résonner. Je ne sais pas, ça s'apparente peut-être à la pair aidance, mais je sais que dans mon propre parcours, c'est ce qui m'a tenu, ce qui m'a donné envie de réfléchir à la qualité du lien à l'autre. Et vraiment, c'est dans les traversées... Enfin, dans le parcours de chacun, dans les témoignages aussi bien dans la dureté que dans les choses un peu plus légères, que j'ai trouvé la force de me tenir debout.
Ouais, c'est vrai que le groupe de parole, c'est... Enfin, moi, il y a un truc qui me vient en tête, qui m'est venu en tête là, tout de suite, enfin, il y a deux secondes, c'est que j'y ai trouvé une liberté, une égalité et une fraternité. C'est peut-être bête à dire, mais... Bah ouais, en fait, c'est pas bête à dire, c'est ça quoi.
Puis il y avait du coup quelque chose d'assez universel. On a tous nos traumas, nos difficultés, on a aussi nos petits doudous qu'on appelle addiction. Au final, on est très semblables. Et là où il y avait beaucoup de distance entre l'équipe médicale et le patient, on a un numéro, on sait plus où on en est, on sait plus qui on est. De toute façon, on a perdu le sens. D'un coup, il y a quelque chose qui raccroche parce que c'est du témoignage vrai.
Ouais, puis on n'est peut-être pas séparés entre les personnes addictes et les personnes non addictes.
Ben non, parce
il n'y a peut-être pas tant de séparation.
Non, je ne le crois pas.
Ça me rappelle.
Je ne crois pas.
Mais c'est sûr que le groupe de parole, c'est, vous l'avez dit, de toute façon, c'est l'exemplarité. Hein. C'est l'identification. Il y a forcément quelqu'un sur l'ensemble des personnes qui sont présentes, qui est dans la même situation, ou à peu près. Alors qui est un peu plus en avant dans le parcours de soins, ou qui est un petit peu plus en retard par rapport à vous. Donc, soit vous êtes là et vous dites, tiens, je vais pouvoir aider, soit vous écoutez ce qui se passe et ce que ressent la personne, et ça évoque des choses, ça active des choses en vous. Et c'est quand même un espace de socialisation vraiment important. On voit, c'est des gens... Dans l'addiction, on est souvent isolé, hein, on est souvent seul. Oui. On est souvent confronté à la solitude, même en famille ou en couple, hein, ça ne veut rien dire, hein, il ne suffit pas d'être seul dans la vie. Hein. On peut être seul dans sa famille, c'est un espace de socialisation, ça force à sortir de chez soi, d'aller voir les gens, dire bonjour, d'être poli, d'écouter, etc. C'est des groupes d'écoute, c'est des groupes de parole, mais groupes d'écoute aussi. C'est bienveillant, c'est sécurisant, c'est régénérant, les gens ils sortent, ils ont pris un petit coup d'énergie. Ils sont rechargés de batterie et c'est vraiment important. Et le dernier point que vous disiez, hein, c'est des espaces de sincérité et d'authenticité. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas de masque. Hein, ils n'ont pas de masque. Pour du coup, il n'y a pas de produit pour se désinhiber. Il n'y a pas de masque, etc. Ça revient à... Pour en parler, dernièrement, on a fait un barbecue chez une des copines du groupe de parole. C'était vraiment sympa. On a passé une super journée. Et c'est à chaque fois, c'est une façon de faire la fête sans alcool et de réinsister sur le fait qu'on peut faire la fête sans alcool, de réinsister sur le fait qu'on est conditionné culturellement et qu'on associe la fête à l'alcool. Quand tu parles avec les gens, la plupart du temps, ils disent on peut pas s'amuser si on n'a pas bien coup pour se désinhiber.
Culturellement et sociétalement.
Socialement,
c'est ça, par la société, quoi. En général, quel que soit le pays, ou, voilà, c'est quelque chose de...
Et on le voit dans les potes qui sont en train de se sevrer, là, qui essayent de sortir de l'alcool. Ils sont là en train de dire, oui, mais mince, il faut arrêter, mais... comment on peut prendre du fromage sans un petit verre de rouge? Je ne vais pas être capable de prendre un fromage sans un verre de rouge. Des huîtres, je ne vais jamais pouvoir manger des huîtres sans vin blanc. Ou la cuisine, faire un bourguignon, un truc comme ça dans l'alcool. C'est des conneries. On n'a pas besoin. Et les hommes, au début, ils vivaient sans alcool.
ou se détendre, ou par exemple pour un homme ou même pour une femme aller draguer en soirée, ou j'en passe et des meilleurs, hein, mais c'est vrai que ça c'est
ouais, faut faire très attention à ce qu'on croit dans ces moments-là.
C'est vrai, ouais.
Alors chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour donner des leçons, on a dit au départ.
Non.
Chacun fait ce qu'il veut, chacun faut se bourrer la gueule sans mettre une bonne, parce qu'il fait la fête ou un anniversaire, il le fait. Mais qu'on vienne pas nous dire qu'on peut pas faire la fête sans alcool, c'est faux.
Oui, complètement.
Alors un premier truc qui est net, c'est que quand on fait une réunion d'amis, amicale, pour passer un bon moment, et qu'il n'y a pas d'alcool sur la table, tu peux te parler. Tu sais, dans les fêtes alcoolisées, le bruit monte. C'est comme s'il y en avait un à la console.
Et puis ça se répète, ça.
Qui pousse le potentiomètre. Et au bout d'un moment, tu t'entends plus là-dedans. Et tu es obligé de crier.
La discussion, après le niveau de la discussion.
C'est clair. Personne s'écoute. À la fin, personne s'écoute. Chacun y va de sa petite histoire. Généralement, c'est du radotage. C'est des histoires que tu as déjà entendues 155 fois. Tu attends que le mec il ait fini pour pouvoir placer la tienne. Après, c'est forcément, tu dérives forcément sur de la grivoiserie ou de la vulgarité, voire de la violence.
Ou des accidents.
Ou des accidents, hein. Absolument, c'est clair. Et puis, moi, j'ai encore vu l'autre jour, hein, au bout de 2 heures, en plein soleil, tu sors, t'as pas la gueule de bois.
T'as moins chaud.
T'as moins chaud, tu prends la bagnole, tu repars, t'as pas peur des flics et tout. Enfin, bon, y a, c'est que des avantages. Alors qu'on vient de pas nous dire qu'on peut pas faire la fête sans l'alcool. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des rapports authentiques avec les gens et des rapports sincères. Tu découvres les gens, tu parles, tu les écoutes et tu es content de ta journée, quoi, si tu veux.
Le problème, c'est que l'alcool, il s'est ancré dans la société, enfin dans les sociétés depuis très longtemps, comme étant le produit, l'alcool et d'autres produits d'ailleurs, hein, qui ne sont pas nouveaux, comme étant vraiment ce qu'il faut, et il faut que ça soit nécessaire à la soirée pour passer un bon moment et tout ça. Et en fait, c'est tellement ancré dans les mœurs qu'on a beaucoup de mal à se débarrasser de ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens se font piéger, piéger par la maladie à un moment donné. Alors, on croit que ça socialise l'alcool, que ça rassemble les gens, que ça permet de rigoler, mais à un moment donné, ça fait le contraire, ça désocialise et ça isole complètement, quoi. Donc, c'est là le danger. Et effectivement, on se rend compte, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir passer des soirées maintenant sans alcool, à bien rigoler, à bien... voilà.
Absolument, ouais. Parce que c'est au tout début du sevrage, au tout début du parcours. Quand on est au pied du mur, on conçoit pas la vie sans alcool. C'est inimaginable. Quand le toubib te demande le sevrage, te propose un sevrage, déjà c'est quelques jours. Hein. Et après, quand il passe à plusieurs mois, il dit on va arrêter de boire pendant 6 mois, par exemple, hein, pour votre corps, pour votre esprit, pour remettre les pendules à zéro. Déjà 6 mois, c'est comme si on demandait aux gens d'arrêter de manger, de boire, ou de boire de l'eau, ou de dormir, ou n'importe quoi, quoi. C'est impensable.
Et pourtant, après, on se rend bien compte que c'est absolument pas nécessaire, et bien au contraire.
Mais on est bien convaincu que c'est impossible.
Quand on est...
Au début, c'est inimaginable.
Alors qu'en fait, par exemple, moi je reprends les propos l'histoire du docteur Coste pour Janvier Sombre, qui avait fini par craquer lors d'un repas de famille et qui avait pas réussi le pari, quoi, alors qu'il n'est pas alcoolique, il est médecin addictologue et qui avait fini par craquer. Donc c'est pas...
Ça va,
c'est... Ouais, c'est...
Craquer ou... C'est venu, en tout cas, c'est venu à lui, en tout cas. Enfin,
c'est très compliqué, très compliqué.
Il a peut-être même pas fait attention.
C'est ça, mais je crois qu'il avait été embarqué par un proche de la famille, et puis sans même s'en rendre compte, il avait pris le verre et hop, il l'avait bu, quoi.
Ouais, parce qu'il a vu que c'était des fois compliqué de dire non.
Ouais, c'est...
Faut bien apprendre, c'est... On a dû apprendre à le faire pour être ferme.
Alors ça, les addictions... Oui, la maladie alcoolique qui en fait partie, c'est une profonde injustice. C'est profonde injustice. Ça veut dire qu'il y a 20% de la population qui, comme nous, Si on, à un moment, on déborde dans notre consommation, si on ne maîtrise plus notre consommation, ça part en vrille. Les autres, ils arrivent à, soi-disant à gérer, ils se démerdent, et ils arrivent à gérer, soi-disant à contrôler leur consommation, tant mieux. Mais c'est injuste, nous, on ne peut pas. C'est cette d'abstinence-là. Excusez-moi du mot, mais c'est ça, l'abstinence. Il faut arrêter par expérience. Nous, on suit les copains en groupe de parole, on voit ce qui se passe, les chutes, les rechutes et tout, tout etc. Et il n'y a pas à dire. Une fois que tu as dérapé dans ta consommation, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, ça, c'est inimaginable. Mais il ne faut pas s'en occuper. Le principal, c'est au jour le jour. C'est arrêter, se sevrer. Déjà, arrêter de boire. Arrêter de boire et se sevrer. Et après, on voit et on ne pense pas trop à l'avenir. J'arrête de parler. On va passer à la pause musicale. Lucie, ultramoderne, c'est ça? Ultramoderne, si je suis bien, c'est que j'ai bu.
Voilà, c'est ça à peu près.
Ou pas. Donc c'était ultramoderne. Si je suis bien, c'est que j'ai bu. Alors, en deuxième partie d'émission, on avait dit qu'on aborderait peut-être le sujet du film Tout pour être heureux, que je me plante pas dans mes notes.
Ah ouais, celui qu'on a vu au cinéma avec le docteur.
Ouais, c'est toujours intéressant de reparler de ça. Il y a un film actuellement donc qui est passé à Blois au Lobis, qui est passé aussi à Montrichard et à Saint-Aignan, puisque on a dit tout à l'heure qu'on bosse dans un collectif entre deux eaux qui bosse aussi sur la vallée du Cher. Et c'est un film qui a été suivi d'un débat. Fabien, t'étais là. Gaël, t'étais pas là, toi, peut-être. Toi, Fabien.
Ouais, j'étais là.
Didier aussi, tu l'as vu, toi? Non.
Non, ah non, j'ai vu tout pour être heureux.
Ouais, si, tout pour être heureux.
Oui, je l'ai vu. Ah non, mais tu parlais d'un autre film. Tu as dit qu'il y a un autre film, alors...
Ça, on en reparlera tout à l'heure, ouais, de l'autre film. Pour Blois, d'ailleurs, c'est, bon, c'était suivi d'un débat. Hein, donc, c'est l'occasion de saluer Romain qui était au Lobis, le programmateur des Lobis, hein, qui nous avait permis de programmer ce film-là avec enthousiasme, d'ailleurs. Hein, il nous avait accueillis vraiment bras ouverts, vraiment sympa. Il nous a quitté pour aller au studio à Tours. Et donc, il a laissé sa place au Lobis. On le salue. Et donc c'est un film de Jérôme Adam, qui est un monsieur qui est non-voyant, qui a eu une tumeur au cerveau entre 15 et 20 ans, je crois, et donc qui a perdu la vue à ce moment-là. Et il raconte aussi, parce qu'il a perdu un frère à cause de la drogue, qui a fini par décéder de ses addictions drogue et alcool. Et il se questionne sur... comment aborder le sujet avec sa fille qui a 15 ans et essayer de pas que sa fille ne retombe pas dans ce qu'il a vécu avec son frère. Donc c'est le témoignage, le film c'est quatre témoignages de familles, de gens de familles qui ont été confrontés au même problème. Et il y en a trois, il y a eu trois morts de la drogue, des addictions, et un qui a survécu, qui a pu écrire un... Donc c'est un film sur les addictions qui est vraiment intéressant parce que c'est vu par les entourages, par l'entourage des patients.
Je me permets, mais c'est surtout que c'est dans un contexte bien précis, c'est-à-dire que c'est des familles qui sont plutôt, qui sont pas, enfin, à la base pas de problèmes sociaux ou pas de problèmes, généraux, c'est des enfants qui sont nés dans des familles où en fait ils ont tout pour être heureux, quoi.
Ouais, absolument. Le titre du film. Ouais. D'ailleurs, c'est l'expression, ce qui a donné le titre du film, si j'ai bien compris, c'est l'expression du père de Jérôme Adam, donc du frère décédé, où le père arrêtait pas de dire, il comprend pas, parce qu'il avait tout pour être heureux. Quoi. C'est ça qui a donné le titre du film. Et c'est effectivement dans une famille de vignobles, en plus, alors le symbole est assez fort, parce que ça se passe en Champagne, je crois, donc un milieu quand même assez aisé, quoi. Et le fils, il avait tout pour être heureux, il pouvait reprendre l'exploitation et tout, mais non, il est tombé dans la drogue, l'alcool, et on a ces témoignages qui sont assez poignants, avec des images, de belles images, et surtout la dernière scène où en fait on assiste à un groupe de paroles au milieu des vignes. C'est le message est assez
le symbole est fort.
Le symbole est assez fort. Ouais. C'est
c'est un film qui est programmé un peu partout en France actuellement, hein, qui a fait un tabac, je sais pas, mais qui a été bien relayé. Si on tape sur internet tout pour être heureux, on a les informations. Nous, dès qu'on aura le DVD disponible, on l'achètera pour pouvoir travailler dessus, parce que c'est un bon outil de travail. Comme toujours, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, et tu as tout à fait raison, Julien. C'est bon, dans les critiques et les remarques, les petites déceptions qu'on peut avoir, c'est que c'est des familles aisées, quoi qu'il arrive. Effectivement,
c'est ça, c'est quand même des familles aisées, éduquées,
une bourgeoisie.
Éduquée, bourgeoisie. Oui.
Ouais, il y a du fric, etc. Donc ça élude complètement des témoignages de familles au niveau social qui sont complètement en bas, quoi, si tu veux, hein,
avec des gros problèmes. Avec des gros problèmes, oui.
Alors, ce qui manque aussi dans ce film, c'est l'espoir, c'est le parcours de soins. Il n'y est pas. C'est des gens d'entourage, c'est la famille. Hein. Donc c'est des gens qui ont été témoins de problèmes d'addiction, donc forcément... Ils se posent la question, mais ils n'ont pas le parcours de soins. Nous, on l'a, on est là pour ça. On est là pour le relayer, justement. Hein. Sinon, il y a tout, hein, dans ce film-là. Il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a le déni, la maladie, il y a le regret, les remords, la fuite pour se protéger, etc. Et tout ça, ça y est, hein, forcément, puisque c'est les familles, quoi, si tu veux. Mais... globalement, c'est quand même un film qui pose plein de questions ouvertes sur ce sujet.
Puis ça permet de changer de regard aussi sur l'entourage que peut avoir quelqu'un de qui tombe dans les addictions ou, voilà, et qui n'est pas forcément ce qu'on peut croire à la base. Et oui, en effet, tout le monde est égaux justement sur ce point-là. Et au niveau des addictions, c'est comme toute maladie, il n'y a pas de choix qui s'opère spécialement pour les pauvres, pour les riches, pour les gens qui sont éduqués, pas éduqués, les étrangers, pas étrangers, enfin voilà, c'est le noir, blanc, jaune, enfin bon, c'est ouais. Voilà, religion par religion, enfin c'est voilà, il y a rien qui protège. Et
être dans le lien, dans le rapport avec la vie, ouais. Le lien qu'on tisse avec la vie.
Peut-être. Aussi, ouais. Et les traumas aussi qu'on peut avoir, quel que soit le lieu où on est, ou la famille dans laquelle on est. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais voilà.
Faut prendre la liberté d'être soi envers et contre tout. Et...
Même si c'est difficile.
Et comme disait Olivier tout à l'heure, il y a toujours des causes. Donc il faut soigner, bien évidemment, d'abord l'addiction. Il faut faire le sevrage et la cure. Mais après, il faut traiter la cause. Et souvent, bon, il y a souvent une cause, même si on ne la connaît pas au départ, si elle est masquée un petit peu, il y a toujours un motif, il y a toujours un traumatisme, quelque chose qui fait qu'on a basculé à un moment donné, qu'on s'est laissé basculer parce que c'était plus facile.
Et là, c'est des fratries, hein. Il y a une sœur avec deux frères ou trois frangins, etc. Et oui, ils ont tout pour être heureux. Et il y en a un qui dérive. Il y en a un qui fout le camp dans la consommation. Pourquoi celui-là? Et ça les titille. Dans le film, ils ont du mal à répondre. Ils ont du mal à répondre, ça se sent. C'est sous-jacent derrière le malaise. Il y en a un qui...
Pour qui ça fait pas sens.
Qui part dans la consommation alors que les autres y tiennent le coup. Et alors forcément, bon, culpabilité, etc. Et les regrets et puis le deuil. Hein.
Et justement, ce qui est le pire là-dedans, c'est que parfois, les familles ne comprennent tellement pas et ne sont tellement pas informées qu'en fait, elles veulent aider. Et en fait, au lieu d'aider, elles peuvent aggraver les choses. Et au lieu de se rapprocher de la personne... qui est en détresse, s'éloigner encore plus et l'éloigner encore plus de la guérison.
Donc ça ouvre des questions. Ce film ouvre des questions, et on l'a vu dans les débats à Blois, à Montrichard et à Saint-Aignan, qui n'étaient pas les mêmes débats d'ailleurs, parce que ce n'étaient pas forcément les mêmes gens. Peut-on sauver quelqu'un qui est dans l'addiction? Et comment? Et ça, la question est posée, mais personne n'y répond dans le film. Hein. Et elle se pose par contre dans la salle, etc. Est-ce qu'on peut être conjoint de quelqu'un addict ou être dans sa famille et être aussi son soignant? Ça c'est une question que nous on gère en groupe de parole régulièrement, et là elle est posée dans le film, et c'est pareil, la réponse n'est pas donnée, hein. C'est ce que je dis, dans le film les questions sont ouvertes mais la réponse n'est pas donnée. Et aussi la question importante qui a été posée dans les salles après dans le débat, c'est comment aborder le sujet avec un proche, et en particulier avec des enfants, comment on aborde le sujet de l'addiction à la drogue, à l'alcool, avec des enfants, ou avec quelqu'un qui est malade, de façon évidente, dans la famille. Et là, les réponses, elles ne sont pas dans les livres, et c'est pas si facile. Alors je vais dire, je te laisse la parole après. Ce qu'a dit le docteur Demigneux, qui est à l'origine de tout ça, hein, avant le docteur Coste, et qu'on salue au passage, c'est que lui, la seule réponse qu'il a donnée, c'est qu'il dit, pour un enfant, si vous voulez parler des problèmes de l'addiction avec un enfant, il faut savoir, ou avec quelqu'un qui est malade, tout ce que vous donnez est reçu. Ça veut dire que tu crois que tu craches dans l'eau, tu craches dans... Mais non, tout ce que vous donnez est reçu. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut plutôt en parler, le dire à un moment, dire, voilà, moi, je trouve que t'as un problème avec l'alcool, t'as un problème avec la drogue, là, il y a quelque chose, ça me fait mal, ça me fait souffrir pour toi, et puis bon, papa. Mais il faut en parler. Et non pas essayer de mettre un drap dessus, hop, protéger la famille, protéger tout le monde. Et surtout, on n'en parle pas. C'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. Et avec un gamin, en particulier, de 15 ans, 14 ou même avant, hein, au mieux aborder franco le truc, quitte à se planter, au mieux aborder le sujet. Excuse-moi, Julien, je t'ai coupé la parole.
Non, complètement. Déjà, oui, comme tu le dis, Olivier, pas être au niveau de la famille dans la honte et dire bah non, bah, toi, t'es le carnaval, tu es, ou enfin, oui, tu es. Voilà, quelle que soit la personne, le canard boiteux de la famille, et ouais, on veut plus te voir, on te cache, on n'en parle pas, voilà. Et puis bon, voilà, c'est, on t'évite, on t'invite pas aux fêtes, etc. Et puis non, c'est vrai que même si des fois on en parle et que c'est un sujet qui est complètement abordé, tout le temps abordé, malheureusement, il faut le rappeler, je pense aussi, si la personne n'a pas envie de se soigner, on pourra jamais l'obliger à se soigner. Et voilà, malheureusement, c'est triste à entendre et c'est triste à comprendre pour les familles. Mais voilà, faut quand même que... faut le savoir. Enfin, voilà, on ne peut pas enfermer les gens ad vitam aeternam, les attacher à une chaise et voilà, toute
t'as
leur
raison.
Vie. Voilà.
Tu as raison, parce que dans, justement, à la fin, dans la dernière scène du film, là, il y a un intervenant... On le voit, on le voit pas le reste du film, il est juste à la fin autour de la table là, au milieu des vignes quand ils font le repas, le groupe de parole, et il y a l'intervenant là-dessus qui dit bien que de toute façon on peut pas sauver les gens malgré eux, hein, et qu'on peut pas sauver tout le monde.
Hein, on peut pas les sauver d'eux-mêmes. Hein.
Voilà.
Et c'est peut-être même prétentieux d'imaginer qu'on serait capable de le faire.
Complètement.
Enfin, j'imagine que pour les familles qui sont très proches et qui aident un membre de la famille dans une des addictions, les familles, elles ont tendance à projeter leur propre modèle pour nous-mêmes, là où on est déjà perdu. Il y a beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'illusions. Enfin.
Puis alors, je peux témoigner du fait qu'il y a aussi, contrairement aux familles qui ont honte de leurs enfants et qui les cachent et qui surtout ne veulent pas les montrer, il y a aussi des familles, moi, je pense notamment à ma mère et à mon frère, ma mère qui supporte et qui ferait tout pour son fils, c'est-à-dire mon grand frère, qui malheureusement ne veut pas sortir des addictions, qui est clair là-dessus, qui est très lucide et qui le dit. Et voilà, ma mère supporte tout ça et vaillamment, et je respecte ce choix, et autant que je respecte le choix de mon frère de vivre sa vie, et je ne porte aucun jugement ni sur ma mère ni sur mon frère, mais c'est malgré tout, c'est pas parce qu'on en parle que voilà, ça règle tout, mais en gros c'est très compliqué, très très compliqué.
Puis les liens sont tellement
oui,
proches aussi dans une famille, oui. Des fois il faut de l'espace, il faut des référents, il faut dégager la culpabilité qu'on porte les uns envers les autres, c'est irrespirable. On dit mais il y avait qu'à, il faut, c'est pas la volonté, mais il suffit de vouloir,
oui,
je
non.
crois que c'est ailleurs que partout ça bouge,
oui.
Et c'est que le collectif, deux minutes là.
Puis le yaka, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut faire, machin.
Même c'est, nous, quand on dit un tel ne veut pas, est-ce que c'est vraiment de la volonté ou est-ce qu'il ne peut pas? Ou est-ce que pour l'instant, les c'est éléments ne sont pas mis autour de lui pour pouvoir sortir la tête de haut? Alors nous, on arrive avec nos étiquettes de sauveur, mais tout ça, pour moi, c'est foutaise. Enfin, qu'on soit là dans l'écoute et la bienveillance sans cesse, évidemment.
Complètement.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir dans nos proches à nous voir heureux coûte que coûte. Et ça fait une injonction supplémentaire.
C'est ça. C'est ça.
On est tous piégés dans nos propres chaînes. On a les notes. Bon, c'est une belle aventure à travailler ensemble une fois qu'on arrive à sortir tout ça. Mais je pense que d'avoir et de la respiration et des espaces comme celui-ci, les groupes de parole pour donner de l'air.
C'est peut-être souvent à l'extérieur qu'on trouve de l'aide plus que dans la famille, quoi, peut-être des fois aussi.
Mais je crois qu'il n'y a pas de règle.
Non, il n'y a pas de règle.
Non, mais moi j'ai vu par expérience sur les groupes de parole là, depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans, tous ceux qui sont passés, qu'on a vus, beaucoup sont venus chercher dans le groupe de parole, parce qu'ils n'avaient pas, ils trouvaient pas le soutien dans leur famille. Mais ils l'ont trouvé, il y en a certains, ils l'ont trouvé après. C'est venu après. Mais.
Moi, je peux témoigner du fait que j'ai toujours eu le soutien de mes parents, et surtout, en particulier, de ma mère, justement, qui aussi a fait beaucoup, et sans qui je crois que je serais pas ici, et qui m'a toujours fait confiance, et ça paye des fois, et je la remercie en tout cas au passage.
Puisque ce qui est drôle aussi avec les familles, c'est que là où on croit qu'on est en rupture totale parce qu'on ne se comprend plus, des fois avec le temps, le collectif qui intervient, on voit que les choses, elles, ouais. Rien n'a changé, tout a changé dans la relation, dans sa famille. Enfin, parce qu'il y a eu cette distance, pas la distance, une bonne proximité peut-être. Pas mettre de la distance, mais trouver la juste
mesure des choses.
La juste proximité. Et là, les liens se font autrement, mais bien mieux, je crois.
Après, c'est pas systématique, comme tu disais, Gaëlle, tout à l'heure, parce que nous, on a fait l'expérience dans le groupe de parole de Blois. On a, plusieurs reprises, on a invité des parents de malades participant au groupe. Et il y a des fois où ça a marché, ça a réussi à arranger les choses et à faire que, en famille, à la maison, ça a permis un soutien plus important et tout ça. Mais on a aussi, hélas, d'autres cas où ça n'a pas marché du tout, quoi. Ça a même... Il y a un cas où ça a abouti à une rupture, quoi, carrément.
Et ça, c'est important pour ce que vous dites pour les auditeurs qui nous écoutent, là, parce que, il y a les gens qui sont dans un problème de consommation personnelle, et il y a peut-être des écoutants qui sont des auditeurs qui font partie de la famille, des conjoints ou des enfants. Hein, c'est important. Et effectivement, Didier, tu dis, on a constaté ça, nous, en groupe de parole. C'est apparu aussi dans les débats. J'ai eu la chance de voir 4 fois le film et d'assister à 4 débats différents sur ce truc-là. Donc petit à petit, ça a affiné ma vision du film. Et il a été question de ça. Dans les salles la dernière fois à Saint-Aignan en particulier, sur le rapport entre famille et patient. Et on était d'accord avec l'addictologue à ce moment-là, à la fin du film, quand on en a reparlé après avec le docteur Demigneux, était d'accord avec ça, que c'était pas si simple. Et en fait, on le voit bien, tu le disais dans les groupes de parole, c'est pas simple de faire venir des accompagnants ou des gens de la famille avec les patients. Et en fait, ils ont une... On le dira tout à l'heure, mais ils ont un site et une association qui s'appelle les Al-Anons. AL comme alcoolique, tiret Anon comme anonyme, qui bossait avec les... plus ou moins avec les... Enfin, c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est une émulation un peu de ça. Et en fait, c'est des groupes de parole, mais qui sont uniquement pour des personnes, des accompagnants, quoi, si tu veux. Parce qu'ils n'ont pas le même problème.
Réservé à la famille et aux proches.
Ouais.
L'entourage.
Et ça, il faut le savoir, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous avez des soucis, vous avez quelqu'un dans votre famille, un proche qui a des problèmes d'addiction, allez voir, vous tapez ça sur Internet, al-anon, et vous aurez plein d'informations avec des réunions, des groupes de parole aussi, et cette association qui, depuis très très longtemps, s'occupe des accompagnants, donne des conseils pour du coup, explique des choses, etc. C'est un accompagnement... vraiment important. Et puis, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur les gens qui ne veulent pas se soigner. C'est vraiment important, ça existe aussi. Hein, nous, on le voit dans notre pratique, on essaye pas de sortir les gens, on essaye d'accompagner des gens et de leur faire profiter de nos témoignages. Et on aide 2 personnes sur 3, quoi. Mais il y en a une, la troisième, on peut faire ce qu'on veut. On peut appeler ça le destin, on peut... Ou elle n'a pas envie de se soigner, mais...
Il y en a qui le veulent aussi, hein. Fabien, je me permets de penser à toi et à certains de tes amis qui sont partis, mais je crois que... Enfin, je te laisse parler, mais...
Oh bah, y a le choix... Le choix du suicide et de la mort à petit feu. Bien entendu. Mais... Il nous reste tout le reste. Mais bon, une pensée pour ceux qui ont choisi cette option-là. Mais là, on parle au vivant. On parle au vivant.
Ouais.
Et au présent.
Mais la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Donc je pense que c'est important de parler des deux à chaque fois. Et de ne pas avoir de tabou là-dessus. Et se dire non, faut surtout pas parler de la mort. Faut surtout pas... Enfin voilà, ça fait partie de la vie. Parce que de toute façon... Bon, je veux pas me casser l'ambiance, hein, mais...
Non, mais c'est...
Tous,
voilà. Fait partie de l'émission, on l'a dit, hein. La mort, elle est là, hein. Fabien, Oui, on a des amis qui ont sauté par la fenêtre. Hein. Mm. Suicide rapide, suicide réussi, suicide lent. Oui, c'est une question de durée.
Ah, c'est pas évident de se réancrer, surtout avec le fardeau, le poids des addictions, de se réancrer dans la vie. Mais en même temps, ça vaut le coup.
C'est clair, ça vaut le coup de se battre. Et en groupe de parole, ce qu'on essaye de faire, je crois quand même, c'est que les gens ils soient en paix avec soi-même, avec eux-mêmes. Nous, c'est ce qu'on est pour l'instant arrivé à faire. Et encore, c'est pas facile. Si, dans une certaine mesure quand même. Je pense qu'on... Il y a un moment, on fait partie de personnes qui ont une démangeaison au niveau de la vie, quoi. Au niveau de l'élan de vie.
Ouais, c'est vrai que
ça gratte, ça fait mal, quoi. Et l'alcool a été une façon de soulager cette démangeaison et ce truc. Et on est passé par une phase qui fait que... on est plus en paix avec nous-mêmes. Qu'on tient debout et puis qu'on essaye de dire aux autres vas-y, accroche-toi, tu peux le faire.
De toute façon, il y a des émotions fortes dans la joie comme la tristesse ou la colère, mais le lien avec l'alcool, il se fait plus forcément direct.
Bon, je crois que c'était super comme émission. Il va falloir qu'on conclue parce que Lucie nous a fait signe, c'est normal. Et alors, on a 2 minutes pour donner des numéros, des adresses quand même. Pour les gens qui écoutent l'émission et qui sont touchés, ils peuvent appeler le secrétariat du service addictologie au 9e étage de l'hôpital de Blois, 02 54 55 67 40. 02 54 55 67 40. Vous serez mis en relation avec le docteur Coste, addictologue, et Juan, la psychologue éventuellement. Vous pouvez aussi contacter le XAPA. Le XAPA qui gère les problèmes d'addiction aux 2 rues Sainte-Anne à Blovienne. 02 54 56 15 16. 54 56 15 16. Il y a les amis de VRS aussi et du CARUD. Alors eux, vous cherchez je n'ai pas leur numéro de téléphone, mais c'est 2 rue de la Mare, en bas de la rue de la Mare, au début, là, au niveau du pont de la rue Bégon. C'est gratuit. Hein. C'est des gens super qui bossent sur l'addiction. Et les drogues et alcool, il n'y a pas de souci. Vous pouvez consulter le blog, entre guillemets, Un radeau entre deux eaux. Vous aurez toutes les informations sur les groupes de parole de Blois. Bon, Blois, c'est pas dur, hein. Nous c'est mardi, c'est toutes les semaines, le mardi à 11h. Vous venez, vous téléphonez à l'hôpital d'abord, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de problème. Et vous aurez sinon sur ce blog, Un radeau entre deux eaux, toutes les renseignements pour les groupes de parole de Montrichard et de Saint-Aignan. Saint-Aignan, ils ont remis un groupe de parole à l'hôpital dernièrement. Et puis, donc, ce site Al Anon pour les accompagnants, n'hésitez pas à les consulter sur Internet. Et il me reste à vous remercier tous, les copains et copines.
Merci à vous. Merci.
Merci à tous.
Dernière information, le vendredi 16 juin à 20h30, au cinéma Le Régent de Montrichard, il y a un film qui est programmé par nous, par le réseau là, qui s'appelle L'Adamante, un hôpital de jour pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques et d'addiction.
Psychiatrique, oui. À Paris.
Oui, c'est à Paris. Super intéressant aussi, ouais. Si, pour les gens qui veulent se déplacer. Il n'y a pas de souci. Lucie, merci beaucoup de nous accueillir et de nous
avoir. Merci Lucie.
À bientôt.
À bientôt.
Salut à tous.
L'ivresse des échanges.
Alcoolisme.
Groupe de parole. L'expérience. Espérance.
L'ivresse des échanges.